Radio Mieux-Être. CJLV AM 1570.
Bienvenue à cette nouvelle émission de Vos rêves vous parlent avec Jean Gagliardi. Mon nom est Jean Rivet de Radio Mieux-Être. Alors Jean, bonjour.
Bonjour Jean.
Voilà. Aujourd'hui, on aborde le thème des rêves lucides.
Oui, en effet, c'est un sujet extrêmement intéressant. Une curiosité dans le travail des rêves. Les rêves lucides, ce sont ces rêves dans lesquels on prend conscience qu'on est en train de rêver. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, qu'on ne le sait. En fait, beaucoup de gens expérimentent des rêves lucides sans le savoir, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir dans la pièce de Molière. Voilà, un rêve lucide, vous êtes en train de rêver et il se passe quelque chose et tout d'un coup, quelque chose par exemple d'extraordinaire, vous êtes en train de voler dans votre rêve où tout d'un coup le sol s'ouvre devant vous et vous voyez le cœur de la Terre. Et tout d'un coup, dans votre rêve, vous vous dites « Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas réel ». Je suis en train de rêver.
Excellent.
Et ce qui arrive assez souvent dans ce cas-là, c'est que c'est une prise de conscience tellement forte que vous vous réveillez. Mm-hmm. Et c'est souvent comme un choc. C'est « Ah, j'étais en train de rêver, je me suis rendu compte que j'étais en train de rêver et le choc nous réveille. » Mais il arrive quand même assez souvent, et il y a des gens pour qui ça arrive presque toutes les nuits, il y a des gens même qui sont entraînés à faire ça, qu'ils soient capables de continuer à rêver en étant conscients de rêver. Mmh. Et auquel cas, le rêve change, l'activité du rêve, on pourrait dire, change complètement de nature. Un enseignant dans le domaine du rêve lucide expliquait que rêver lucidement, c'est une façon de doubler notre temps de vie. Parce que si nous vivons 100 ans, mais que nous dormons la moitié de notre temps, ouais. Et bien voilà qu'en rêvant lucidement, en rêvant consciemment, nous vivons 200 ans d'une certaine façon.
Donc toi, Jean, tu travailles dans le domaine du rêve, tu reçois des gens en consultation, tu analyses les rêves. Est-ce que t'as rencontré souvent des gens qui rêvaient lucidement?
Oui, assez souvent. Je dirais que représente peut-être 10% de ma clientèle. Souvent, ce sont des gens qui m'arrivent en me disant voilà, je fais des rêves étranges. Je me rends compte que je rêve, mais je sais pas quoi faire avec ça. Puis, est-ce que je suis normal? Est-ce que c'est normal ce qui m'arrive? Mm-hmm. Et c'est pour ça que ça me paraît important d'en parler, parce que oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ça caractérise des personnes qui sont souvent très créatives ou alors qui ont une recherche spirituelle très approfondie et qui sont pas très loin de connaître certains états d'éveil dans la vie quotidienne. Et ces états d'éveil se manifestent aussi dans le rêve. Mmh. Mais le plus souvent, j'ai été frappé de constater que le plus souvent, les rêveurs lucides spontanés, les gens qui rêvent spontanément, lucidement, ouais. Sont des gens extrêmement créatifs. Ce sont des artistes assez souvent, que ce soit des acteurs ou des peintres, qui vont multiplier leur travail créatif en le poursuivant la nuit, en imaginant dans leurs rêves des scènes absolument incroyables, des fois des scènes qu'ils vont peindre ou des scènes qu'ils vont jouer.
Est-ce qu'il y a des gens connus, par exemple, que tu...
Oui, il y a des gens connus, mais je peux pas me permettre de les nommer, ce serait...
Okay,
je suis désolé,
okay.
Il y a une confidentialité là-dessus.
Uh-huh.
Oui, il y a des gens tout à fait connus. Il faut savoir que... on estime qu'entre 5 et 10% de la population connaît des rêves lucides spontanément, mmh. Et environ 2% connaissent des rêves lucides presque toutes les nuits, au moins une fois par semaine.
Et tout le monde a entendu parler des fameux voyages astro, l'idée que en s'endormant le soir, on peut sortir de son corps et voyager librement, aller visiter des proches, se promener partout. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Alors, je suis pour ma part, je ne sais pas. Les scientifiques qui étudient le rêve lucide, parce que c'est un objet d'étude scientifique, évidemment, disent que le voyage astral, les sorties hors corps, tout ça, ça n'a aucun sens, ce n'est que du rêve. Il y a des éléments qui laissent penser que ce n'est pas si simple. Des gens qui voyagent hors corps, font des voyages astraux, ont déjà rapporté des détails objectifs, réels, qu'ils ne connaissaient pas, comme ils sont allés visiter une autre maison, et puis qu'ils n'avaient jamais visité, et puis quelques jours après, ils sont allés dans cette maison et ils ont été très frappés de reconnaître le même décor.
C'est tous les phénomènes psy qu'on étudie même à l'université. Je sais qu'à l'Université de Montréal, il y a eu des études là-dessus qui démontraient que certaines personnes avaient cette faculté-là de sortir, soi-disant, de leur corps et d'aller dans une pièce et de décrire précisément ce qui était dans la pièce en détail. Et ça, c'était paramétré scientifiquement. Donc, je pense à Louis Bélanger, qui est un professeur de l'Université de Montréal, qui a beaucoup contribué à donner de la crédibilité à ces phénomènes-là qui, souvent, sont mal perçus. Pourquoi? En premier lieu, parce que ça fait peur, parce que c'est de l'inconnu. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose de concret, de réel derrière ça.
Il y a des preuves expérimentales, comme tu le dis, Jean. Il y a vraiment des expériences qui ont été menées, des récits extrêmement précis. La difficulté, c'est que dans le cadre scientifique actuel, on n'a aucune explication pour ces choses-là. Et donc, à part quelques scientifiques, qu'on pourrait dire courageux, qui préfèrent s'en tenir aux faits qu'à leur théorie préalable... C'est très très controversé. Ouais. Et en effet, la différence avec la lucidité onirique est difficile à établir parce que les rêveurs lucides sont plus susceptibles que les autres de vivre des expériences de cet ordre-là. Précisément, un rêveur lucide peut décider dans son rêve d'aller visiter un endroit qu'il ne connaît pas encore, ce qu'un rêveur non lucide ne pourra pas décider aussi consciemment. Ça pourra lui arriver éventuellement, mais parce que dans ce cas-là, au réveil, il se rend compte qu'il est allé visiter. Le rêveur lucide, l'avantage qu'il va avoir, c'est qu'il se rend compte qu'il est en train de rêver et il va pouvoir mener l'expérience consciemment.
Et à ce niveau-là, est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du divertissement ou c'est plus profond, c'est plus des enjeux psychologiques qui se jouent?
Alors, en fait, le rêve lucide, c'est comme la bicyclette, on peut faire tout ce qu'on veut avec. On peut se divertir, on peut en faire un objet de compétition sportive, on peut travailler avec. Le rêve lucide, c'est un domaine immense, en fait, qui s'ouvre dès qu'on commence à rêver lucidement. Beaucoup de rêveurs lucides l'utilisent, on pourrait dire, pour leur divertissement. Ils cherchent à programmer leurs rêves pour satisfaire leurs désirs, pour expérimenter des choses qui les amusent, mais il y a des recherches, il y a des gens qui utilisent le rêve lucide pour faire des recherches parce que on s'est rendu compte que la créativité en rêve, en particulier lucide, est absolument extraordinaire. Donc les artistes, les scientifiques, les chercheurs tirent parti du rêve lucide quand ils y ont accès. On peut aussi utiliser le rêve lucide pour explorer des problématiques psychologiques. On va rencontrer dans nos rêves des personnages, par exemple, qui nous font peur et lucidement rentrer en interaction avec eux et travailler sur ce qu'on appelle l'ombre très directement. D'habitude, quand on rêve d'une façon non lucide, on va travailler sur ces ombres lors de l'interprétation du rêve, lors de l'analyse du rêve. Mais le rêveur lucide a un avantage, c'est que lui, il peut dialoguer directement pendant le rêve avec ses ombres. Et à partir de là, le rêve lucide est aussi utilisé pour affronter les peurs. Pour affronter les peurs, pour dénouer des cauchemars récurrents, pour risquer des situations qu'on n'oserait pas risquer dans le réel, dans la vie diurne, mais on peut se permettre de les vivre en rêve, consciemment, en sachant que rien ne peut vous blesser vraiment en rêve. Je repense à un exemple dont j'ai entendu parler, d'une femme qui vivait une phobie. Quand elle traversait la rue, elle avait toujours l'impression que... il était possible qu'une voiture ne s'arrête pas et lui rentre dedans. Et en rêvant lucidement, elle s'est tout simplement arrêtée au milieu de la voie et elle a vu un camion lui arriver dessus et la percuter. Mmh. Et en rêve, elle a éclaté de rire parce que ce camion l'avait projetée en l'air et elle était retombée sur ses pieds. Okay. Et en fait, elle a déjoué d'une certaine façon son angoisse, sa phobie, comme ça.
Un genre de acting out.
C'est un, exactement, ouais. Une expérimentation à travers le rêve.
Je vais donner les numéros de téléphone. Si donc vous avez fait l'expérience de rêve lucide, de rêve prémonitoire, vous êtes à la bonne émission. C'est exactement ce dont on parle ce matin avec Jean Gagliardi. Donc les numéros de téléphone pour nous rejoindre, pour parler à Jean, sont le 450-680-1570 et le numéro sans frais de partout au Québec, le numéro 1-866-895-3142, 1-866-895-3142. Jean, est-ce que toi tu rêves lucidement?
Ça m'arrive très rarement, ça m'arrive une fois de temps en temps. Pour ma part, je suis plus intéressé à l'interprétation des rêves en tant que tel. Okay. Mais c'est sûr que ça m'attire de rêver lucidement. Et je ne me suis pas encore lancé dans un programme d'entraînement aux rêves lucides, parce qu'on peut vraiment s'entraîner à rêver lucidement.
Tout à fait. Ouais.
Alors ça m'est arrivé à 5 ou 6 reprises, je dirais, dans les 10 dernières années, de rêver lucidement, spontanément. Et avant de parler peut-être justement de comment on peut s'entraîner à rêver lucidement, je veux terminer sur les applications ou les utilisations du rêve lucide. Pour mentionner que c'est un sujet d'études médicales et scientifiques à ce point-ci, d'abord on a vraiment prouvé scientifiquement le rêve lucide. On l'a prouvé d'une façon amusante en laboratoire du sommeil. Je vous disais dans une émission précédente qu'on sait que quelqu'un rêve parce que les globes oculaires se mettent à bouger pendant
ce qu'on appelle le rapid eye movement.
C'est ça, exactement, le REM. Or, on est parti de l'hypothèse que ces mouvements correspondaient en fait à l'action des yeux dans le rêve, le fait qu'une personne regarde à droite ou regarde à gauche.
Donc, si je rêve que je suis à un match de ping-pong, mes yeux vont bouger d'un côté à l'autre.
Exactement. Okay. Et c'est ce qui a permis d'établir un code pour que les rêveurs lucides en laboratoire du sommeil fassent savoir qu'ils étaient devenus lucides. Mm-hmm. Et donc, c'est au laboratoire de Stanford en 1970 que l'expérience a eu lieu pour la première fois. Ils avaient convenu que les rêveurs regarderaient 3 fois de haut en bas, donc les yeux en haut, les yeux en bas 3 fois, puis feraient un tour complet. Et que c'était une façon de signaler aux expérimentateurs que le rêveur était rentré en phase de lucidité.
Je reviens à l'exemple donné de la dame qui rêve qu'un 16 roues qui lui fonce dessus. Il n'y a pas de danger. C'est pas ça qui peut expliquer des fois qu'il y a des gens qui font des crises cardiaques la nuit ou je me dis, s'il y a une réponse physiologique, ben jusqu'où ça va?
Alors, jusqu'où ça va? C'est ça qui est très intéressant. Merci pour cette question, parce qu'en fait, ce qui était caractéristique de cette dame, c'est qu'elle était entraînée à lâcher prise. Elle était entraînée à vraiment... étant lucide dans le rêve, à se prêter à l'expérience. Elle s'était entraînée dans la vie diurne, à imaginer cette scène. Elle avait donc déjà rencontré et affronté l'angoisse que ça pouvait lui causer. Et elle a évité de se crisper, de se tendre complètement quand le camion lui arrivait dessus. Elle a donc su parfaitement contrôler sa réponse physiologique.
Okay.
Et c'est ce qui est remarquable. Mais c'est certain que quelqu'un qui vit en rêve, sans être d'ailleurs lucide justement, et qui vit une scène dramatique, mmh. Présente exactement les mêmes signes physiologiques que si ça lui arrivait dans la vie réelle. Dans la vie réelle, nous n'avons aucune distance avec ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas lucides, justement. Nous n'avons pas cette distance de la lucidité. Dans le rêve, quand nous ne sommes pas lucides, de la même façon, nous n'avons pas de distance. Donc nous prenons ce qui arrive pour étant absolument objectif. Ouais. Le rêveur lucide a un grand avantage. Il sait qu'il rêve. Il sait donc que ce qui est en train de lui arriver ne présente aucun risque réel. C'est un peu comme si nous, dans la vie réelle, nous savions que nous venions d'ailleurs, nous venions d'une autre dimension, et que finalement, rien, absolument rien, ne peut nous faire de mal.
C'est comme, tu disais la semaine dernière, c'est que le rêve nous amène à devenir meilleur, à s'accomplir davantage, nous entraîne à la vie diurne.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'intérêt pour moi de travailler le rêve et, par exemple, en plus d'aller expérimenter le rêve lucide, c'est pour ramener ce qu'on est capable d'apprendre en rêve, ces pratiques de rêve, dans la vie diurne. Et c'est finalement pour vivre une vie plus lucide. Mmh. Je vais continuer un instant, ça va donner une illustration par exemple de ce qu'on peut faire avec le rêve quand on commence à rentrer dans la lucidité, à parler des applications du rêve lucide. Par exemple, ça a des applications dans le domaine médical. On sait, on utilise depuis une vingtaine, une trentaine d'années l'imagerie mentale pour aider des gens qui sont malades.
Est-ce que c'est les scans, ça, ou
Non, l'imagerie mentale, c'est quand on visualise.
Parfait.
Par exemple, c'est les Simonton, un couple de médecins qui avait mis au point une technique dans laquelle des personnes atteintes du cancer visualisaient le cancer comme étant je ne sais plus très bien, des insectes dont on se débarrassait.
Comme les enfants qui sont atteints de cancer et qui vont jouer au Pac-Man ou qui vont faire des jeux vidéo en visualisant qu'en fait, ils combattent leur cancer.
Exactement.
Oh oui. Okay.
Et ils se sont rendus compte, les statistiques étaient éloquentes, que les personnes qui se livraient à ce type d'activité avaient une espérance de vie plus grande que ceux qui ne le faisaient pas. Et donc, depuis une vingtaine d'années, on a énormément développé ce domaine d'imagerie mentale qui repose sur le fait que le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire.
Okay.
Il ne fait absolument aucune différence, il réagit de la même façon. Mm-hmm. Mais alors, on s'est rendu compte que justement, il était possible de littéralement programmer la réponse du corps à différents problèmes, non seulement à travers l'imagination, dans ce qu'on appelle l'état hypnagogique qui est entre la veille et le sommeil, ce moment, vous savez, où on est juste en train de s'endormir.
Un état d'hypnose ?
C'est pas un état tout à fait d'hypnose, c'est plus vraiment un état de flottement entre la veille et le sommeil. Okay. C'est ce moment où des images nous viennent alors qu'on est sur le bord de s'endormir, et puis c'est comme si l'imagination se suractivait. Okay. Mais c'est encore beaucoup plus efficace si on le fait en rêve. Mmh. On s'est rendu compte que quelqu'un qui était malade et qui, en rêve, agit sur son corps, c'est-à-dire se met à visualiser son corps, fait un travail énergétique, on pourrait dire, sur son corps, va vivre dans la vie diurne des résultats absolument étonnants. On dirait qu'il semble que l'efficacité soit de 1 à 5 entre l'imagination diurne, pendant la journée, si on imagine, ou si on rêve pendant la nuit d'une façon contrôlée, d'une façon lucide, on a 5 fois plus d'efficacité. Et donc c'est un des champs d'expérimentation et de recherche approfondie autour du rêve lucide.
Donc ça peut aider des gens à contrôler ou même éliminer des symptômes physiques comme par exemple l'hypertension, l'anxiété.
Absolument, exactement. On travaille beaucoup sur des questions comme l'anxiété. Ben là, on va aller travailler justement sur dénouer les causes de l'anxiété, les rencontrer en rêve, lucidement et les déjouer. Mais on travaille aussi, on fait même des expériences avec des gens qui sont atteints de maladies physiologiques grave. On s'est rendu compte de quelque chose de très très intéressant, c'est que je vous disais que les Simontons avaient utilisé un peu la logique du Pac-Man, c'est-à-dire la destruction des cellules cancéreuses, et on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure façon de traiter une maladie, qu'il valait mieux voir la maladie se transformer en quelque chose qui aurait une valeur, qui serait positif, que si on la combattait, et c'est comme si on combattait l'organisme et sa logique, et qu'il y avait des réponses, on pourrait dire de l'inconscient, une forme éventuellement de vengeance de ce qui était combattu.
Un genre de cinéma intérieur thérapeutique.
Mais voilà, par contre, si on rentre en dialogue avec la maladie, on peut arriver à comprendre éventuellement d'où elle vient et surtout ce à quoi elle veut amener. Parce que...
Donc on dialogue avec ce qui est non résolu en soi. Par exemple, je ne sais pas, moi j'ai un problème de diabète et mon diabète est personnifié par un personnage dans mon rêve. Et je dialogue avec mon diabète. Puis je lui dis, ça va bien, sugar?
Voilà, exactement. on peut déjà faire ça en étant éveillé au travers d'une technique qu'on appelle l'imagination active, qui est une technique complémentaire du travail du rêve. Mais les gens qui sont capables de rêver lucidement vont pouvoir littéralement se donner comme consigne de rencontrer leur diabète. Okay. Pendant la nuit, et d'entamer un dialogue. Et au-delà de lui demander si tout va bien, on va pouvoir lui demander « Mais pourquoi t'es là ? Qu'est-ce que tu veux me dire, finalement ? Qu'est-ce que tu veux corriger dans ma vie ? Qu'est-ce que tu veux... À quoi tu veux m'amener ?»
Ok. Un dialogue avec l'inconscient.
Voilà, c'est un dialogue avec l'inconscient. Okay. Et à nouveau, c'est un dialogue dans lequel on est... Idéalement, on essaye de tenir compte du fait que tout ce qui est dans notre vie a une valeur, vaut quelque chose, cherche à nous amener quelque chose de positif. Mm-hmm. Ça paraît difficile à dire quand c'est une maladie grave qui met en danger notre vie, mais la biologie totale et d'autres disciplines comme ça ont établi que finalement... Le cancer, par exemple, est souvent la réponse de l'organisme à un stress, une mauvaise réponse, mais ce que l'organisme croit être la meilleure réponse possible. Alors, il est possible d'aller dialoguer avec une maladie en disant « À quel problème cherches-tu à répondre ?» Et puis lui rajouter « Dis donc, es-tu au courant que si tu continues ce que tu es en train de faire, tu vas me tuer, tu vas nous tuer ?» Est-ce qu'il y aurait une autre possibilité ? Est-ce qu'on pourrait aller trouver une autre façon de prendre en charge le problème auquel tu réponds ?
Comme s'il y avait deux niveaux en soi, un niveau archaïque, instinctif, qui demande d'être, si on peut dire, conscientisé, accompagné.
Tout à fait. C'est exactement ça. C'est un niveau archaïque qui fonctionne sur des mémoires qui sont nos mémoires d'enfance, mais qui sont éventuellement des mémoires ancestrales. Par exemple, ce que des disciplines comme la biologie totale tend à démontrer, c'est que dans le cas d'un cancer, il y a un stress auquel l'organisme n'a pas trouvé de meilleure réponse, ne connaît pas de meilleure réponse que de multiplier les cellules. Alors donc, tout d'un coup, voilà un organe qui se met à grossir d'une façon démesurée, à avoir des cellules qui rentrent dans une croissance folle.
Donc, par exemple, là, je m'avance un peu rapidement parce que je suis pas vraiment expert, mais j'ai dans ma vie concrète, je materne une personne et puis ça l'entraîne peut-être une dysfonction au niveau du sein, par exemple.
Par exemple, là, tu touches à un des thèmes...
Une somatisation qui se fait.
Voilà. Bah, par exemple, tu touches à un des thèmes, le fait que... on parle du fait que souvent que la biologie totale, qui recherche la dimension symbolique des maladies, va relier les maladies qui touchent le sein de la femme à ce qu'on appelle le complexe de nid. C'est-à-dire à quelque chose qui a trait à la mère, à la maternité, qu'elle soit vécue, qu'elle ne soit pas vécue, par exemple, qu'il y ait une frustration parce qu'elle n'a pas été vécue, ou au contraire qu'elle soit qu'elle envahisse la vie de la femme parce qu'elle est trop maternelle, etc. Et en effet, dans ce cas-là, l'exemple est intéressant, on peut imaginer, alors là, encore une fois, je signale que je ne suis pas médecin et je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, je suis spécialiste du rêve. Mais on peut imaginer un dialogue avec la maladie.
Pour la résoudre.
Pour la résoudre, en lui demandant, qu'est-ce que tu essayes de me dire ?
Le mal a dit.
Qu'est-ce que le mal a dit, exactement ?
On va faire une petite pause et on revient par la suite avec Jean. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur une expérience que vous avez vécue en relation avec les rêves, vous nous téléphonez au 450-680-1570 et au numéro sans frais 1-866-895-3142. Animateur et réalisateur de l'émission Ésotérisme expérimental à la télévision, Richard Glenn a été et est toujours l'un des meilleurs vulgarisateurs du monde ésotérique. L'ésotérisme de Richard Glenn n'est pas seulement une démarche intellectuelle, mais un ésotérisme vécu et expérimenté. Franchise, loyauté et honnêteté, voilà le contenu de l'émission Ésotérisme expérimental. Les vendredis 18h et en rediffusion, le samedi 22h. Radio Mieux-Être, un rendez-vous avec la vie. Nous sommes de retour à l'émission Les rêves vous parlent. Et je vous répète les numéros de téléphone si vous aimeriez faire interpréter un rêve. Donc, vous nous téléphonez au 450-680-1570. Ou au numéro sans frais, 1-866-895-3142. Donc, Jean, on abordait la question fascinante du rêve lucide. L'idée qu'on se couche le soir et finalement, plutôt que de s'endormir, on continue à rester dans la conscience et on dirige le rêve.
Absolument.
Est-ce qu'on peut s'entraîner à faire ça?
Oui. C'est ça qui est très très intéressant et c'est là-dessus qu'ont travaillé plusieurs scientifiques dans les dernières années. Et en fait, ça vient d'une très ancienne tradition qu'on appelle le yoga du rêve au Tibet. Ouais. Et donc, en effet, il y a des techniques pour s'entraîner, des techniques très efficaces. On a établi que pour rêver lucidement, ça prenait au fond trois éléments importants. Il faut avoir une très forte motivation. Il faut avoir une bonne capacité à se souvenir de ses rêves, parce qu'il pourrait arriver qu'on rêve lucidement mais qu'on l'oublie, malheureusement. Et puis, il faut des techniques efficaces. Des techniques efficaces, c'est ce dont je vais vous parler tout de suite. Il y en a de deux ordres. Il y en a une qui consiste tout simplement à se demander, entre 5 à 10 fois par jour dans la vie diurne, dans la vie quotidienne, est-ce que je suis en train de rêver ? Alors Jean, d'ailleurs, je te pose la question, qu'est-ce qui te prouve que tu n'es pas en train de rêver présentement ?
C'est une excellente question, je vais me pincer. Ouch ! Ok, je suis toujours... je suis bien réel.
Tu penses que c'est suffisant pour te prouver que tu es bien dans la réalité ?
Oui, c'est vrai que c'est... On peut réfléchir longuement à ça, t'as bien raison. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est... Est-ce que, premièrement, j'ai pris mon café? Est-ce que je devrais en prendre un deuxième? Est-ce que je suis vraiment toute là? Est-ce que je suis trop dans mes pensées? Ça va loin.
Qu'est-ce qui t'empêcherait de prendre un café puis un deuxième en rêve?
Exactement.
Y a un rêve qui illustre ça. C'est un enseignant qui s'appelle Robert Moss et qui raconte que dans un cercle qu'il rêve, il rêve justement qu'il est dans un cercle de rêveurs avec qui il travaille et qu'il y a une des personnes qui lui pose la question, qui lui dit « Robert, qu'est-ce qui nous prouve que nous ne sommes pas en train de rêver ?» Et au centre du cercle, ils avaient construit un petit hôtel sur lequel il y a une bougie et Robert va jusqu'à cette bougie et se verse de la cire brûlante sur le bras et dit à la personne qui lui pose la question « Voilà, c'est bien évident que si j'étais en train de rêver, cela me réveillerait. » Il repose la bougie et c'est à ce moment-là qu'il se réveille. Et là, il s'est réveillé avec tout un choc. Tout un choc parce qu'il s'est rendu compte que rien, absolument rien, ne pouvait lui permettre d'être certain qu'il n'était pas en train de rêver.
Mmh. Bien, Jean, on a quelqu'un, un auditeur, qui veut te poser une question.
Ah ben, bien volontiers.
Alors, bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
monsieur. Est-ce que c'est le monsieur qui parle pour les rêves?
Oui, tout à fait.
Oui. Là, je voudrais savoir. Moi, je rêve souvent des anges, puis mon mère est décédée aussi. Peut-être c'est ça. Puis là, ça fait 10 ans, je ne sais pas. Puis je rêve souvent dans des soirées joyeuses, que je suis de bonne humeur, puis que c'est des soirées là, que ça va bien là, avec les gens. Là.
Non, c'est donc des bons rêves, des rêves que donc vous qui vous laissent justement joyeuse, qui vous laissent. Comment vous vous sentez quand vous avez rêvé ces quand vous avez eu ces rêves?
Ben, je me sentis bien, oui.
Oui. Et est-ce que est-ce que ça pourrait venir équilibrer ce que vous vivez la plupart du temps? Est-ce que vous vous sentez seul, par exemple? Est-ce que par exemple, le fait que votre mari soit décédé, ça vous a laissé dans une certaine solitude? Est-ce que vous êtes entouré? Est-ce que vous vivez de la solitude?
Moi, non. Ben, la solitude, oui, je ne suis pas mariée, moi. Ah. Je suis seule, mais je chante dans une chorale. J'ai 2 chorales présentement. Puis c'est ça. Puis là, je suis bien entourée avec ma famille aussi. Puis je me sens bien, oui.
Bon, parce que ce que je suis porté à penser en écoutant vos rêves, c'est que c'est votre nature joyeuse quand vous vous retrouvez comme ça.
Je suis toujours de bonne humeur, moi.
Ah, vous êtes toujours de bonne humeur,
je souris toujours. Même à chorale, ils m'appellent le rayon de soleil. Fait que je suis toujours de bonne humeur. Jamais je suis méchante humeur.
Bon, alors je pense que ce qui se passe, c'est que ça vous parle quand vous rêvez comme ça, que vous êtes avec des gens en train de faire un peu la fête, etc. Ça vous parle du fait que c'est votre nature profonde, que finalement vous êtes toujours jeune à l'intérieur et toujours, on pourrait dire un petit peu sur le parti, toujours à vouloir fêter la vie. Et puis pour les anges, bah vous savez, les anges, c'est quelque chose qu'on retrouve dans notre histoire spirituelle depuis bien plus longtemps,
oui,
que 2000 ans.
Bien sûr, je suis très catholique.
Vous êtes très catholique.
Oui.
Vous savez, quand on parle des anges, ça nous ramène toujours à ce qu'on retrouve dans la Bible. C'est l'histoire de Jacob qui se bat avec un ange pendant toute la nuit, mais qui finit par, au petit matin, voir une échelle qui monte jusqu'au ciel, et les anges qui montent et qui descendent. Et les anges, en grec, c'était les angelos, c'était les messagers. Alors, si vous rêvez très souvent d'anges, ça laisse entendre que vous êtes comme en lien, en contact avec ces dimensions supérieures, que c'est comme si... toutes les nuits, vous rentrez en contact avec en haut, et que vous avez cette capacité à ressentir la proximité du ciel.
Oh ben c'est bien, puis j'en ai dans la maison aussi.
Ah ben
j'en
voilà.
Ai des anges dans la maison aussi. J'aime ça quand je vois des anges là, je suis portée, mais mes amis m'en donnent aussi, tu sais. Mm-hmm. Fait que je suis portée à être comme ça. C'est que si vous dites, c'est plutôt ça, là. Mais je savais pas exactement, là, pour les anges, là, tu sais. Mais vous le savez, c'est votre métier.
Ah, vous savez, c'est un métier intéressant parce que finalement, on n'a aucune certitude finale. Tout ce que je peux vous proposer, c'est comme une hypothèse, mais ça me laisse entendre quelque part que vous êtes justement comme ça. Vous parlez aux anges. Vous êtes en contact avec le ciel.
Oh, ben, je suis bien contente de savoir ça. Je suis contente de savoir ça, monsieur. Je suis bien contente. Fait que comme ça, ben, merci beaucoup. Puis, vous souhaite une belle journée.
Eh ben, merci beaucoup. Merci pour votre appel. Puis, bonne journée.
Merci, vous aussi. Puis, une bonne année.
Merci, bonne
merci,
année.
Madame.
C'est plutôt la santé qui compte, hein?
Ah oui, c'est
essentiellement.
Quand on a
oui.
la santé, c'est ça qui compte. Bon, ben, un gros merci, puis après-midi, même, m'en va chanter.
Bon, ben...
va être correct.
Bonne journée.
Excellent.
Vous aussi, monsieur. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Donc, les anges, c'est des forces secourables qui viennent de l'inconscient? Du moi profond, de Dieu?
Voilà, quand on dit l'inconscient, on avoue simplement qu'on ne sait pas ce que c'est. Quand on dit l'inconscient, on reconnaît simplement que c'est hors du champ de notre conscience. Okay. Et qu'on ne sait pas ce que c'est. Par les temps passés, dans un vocabulaire religieux, mm-hmm. C'est certain qu'on disait que les anges nous venaient du ciel, de Dieu, que c'était les messagers ou les intermédiaires. Dans certains cas, on va pouvoir dire vraiment très clairement qu'ils sont comme l'expression d'un maître intérieur qui donne des informations, qui est comme notre partie divine qui nous parle.
Des forces psychiques ou spirituelles.
Des forces psychiques ou spirituelles. Ce qui est très intéressant avec les anges, c'est qu'ils ont une forme humaine. Okay. Et cependant, ils ont des ailes comme les oiseaux. Or, les oiseaux, dans les rêves, représentent très volontiers les esprits au sens de ce qui fait le lien entre la terre et le ciel. Mmh. Alors, un ange, c'est comme un homme oiseau qui a cette capacité de faire le lien entre la terre et le ciel. La grande différence avec les oiseaux, c'est qu'il est bien rare que les oiseaux se mettent à parler. Si on est en train de rêver d'un oiseau, et peut-être donc une connexion avec une dimension au-delà du conscient ou entre la terre et le ciel, mais par le fait que c'est un oiseau, on s'attend, à moins que ce soit un oiseau merveilleux, à ce qu'il soit incapable de nous communiquer un message en mots en tant que tel. Mm-hmm. Mais si c'est un ange, c'est un être humain avec des ailes, et donc il est capable de nous dire quelque chose. C'est donc un autre niveau d'élaboration de cette connexion avec le ciel.
C'est vraiment un cadeau.
Oui, absolument.
Pour ne pas dire un gâteau. Oui, tout à fait. Voilà, donc on répète les numéros de téléphone. Si vous aimeriez faire interpréter un rêve, donc vous nous téléphonez au 450-680-1570, et le numéro sans frais, 1-866-895-3142. Donc, finalement, Jean, les rêves nous éveillent?
Les rêves nous éveillent, oui, tout à fait. Ça, c'est un thème qui reviendra souvent dans l'émission. Et les rêves sont vraiment un champ de travail qui permet de travailler à plus de conscience, plus de lucidité, encore une fois. Et justement, je veux revenir sur cette question de l'entraînement au rêve lucide, parce que c'est, comme je disais, ça fait partie du yoga du rêve. Mmh. Et le yoga du rêve lui-même vise à nous éveiller. Et le grand problème, donc, c'est de savoir comment nous pourrions vérifier que nous ne sommes pas en train de rêver. Vous avez peut-être vu le film Inception.
Est-ce que avec Leonardo DiCaprio,
voilà, je me souviens bien. Et dans Leonardo DiCaprio, c'est justement toute une affaire de rêve lucide. Hein. Okay. C'est des aventuriers du rêve qui doivent se livrer à une mission en rêvant lucidement, mmh. et c'est un rêve dans un autre. Et vous vous souvenez peut-être que un de ces héros fait ce qu'il appelle un test de réalité avec une toupie. Il a une petite toupie avec lui, et à chaque fois qu'il se demande s'il est en train de rêver, il lance cette petite toupie, okay. parce qu'il s'attend à ce que, s'il est en train de rêver, cette toupie se comporte de façon inhabituelle. C'est un assez bon test de réalité, mm-hmm. il faut dire, mais on a encore plus efficace et très simple. Consiste tout simplement à garder sur vous un texte, ou alors une horloge digitale. Okay. Et à chaque fois que vous vous demandez si vous êtes en train de rêver, eh bien, lisez une première fois le texte ou lisez les chiffres de l'horloge, mm-hmm. détournez le regard, regardez autre chose et revenez encore une fois au texte ou à l'horloge. Et observez si les caractères changent, se déforment ou si le texte se transforme d'une façon ou d'une autre. On a établi que dans 75% des cas, si on est en train de rêver, le texte se transforme. Ou alors les chiffres commencent à se déformer, à devenir incohérents. C'est-à-dire qu'au lieu que l'horloge passe d'une seconde à l'autre, on se met à avoir quelque chose de bizarre.
Mais attends, Jean, ce que tu me dis, c'est qu'on, finalement, dans la vie quotidienne, souvent, à notre insu, on rêve les yeux ouverts.
Alors, ce dont je parle, c'est, je suis en train de parler d'une technique pour favoriser le rêve lucide.
Parfait.
Et pour favoriser le rêve lucide, une des suggestions, il y a deux techniques principales.
Ah, okay, je comprends. Ouais.
Une des suggestions, c'est de se demander 5 à 10 fois par jour, est-ce que je suis en train de rêver ? Mmh. Et en faisant un test de réalité, de telle façon qu'on va prendre l'habitude aussi de faire ce test de réalité la nuit pendant qu'on rêve. Mmh. Et donc tout d'un coup, en rêve, on va être capable de se rendre compte, ah, je suis en train de rêver. Mmh, mmh. Hein? On s'habitue à se poser régulièrement la question, est-ce que je suis en train de rêver ? Au lieu de prendre pour acquis
qu'on est toujours
lucide, éveillé. Parce que, au fond, qu'est-ce qui fait qu'en rêve, on ne se rend pas compte qu'on est en train de rêver ? C'est parce qu'on prend ce qui est en train d'arriver dans le rêve pour argent comptant, dirons-nous.
Tout à fait.
Pour
c'est
être
fascinant,
une réalité.
Fait que la frontière, elle n'est pas si loin que ça de dire que on est dans la conscience ou dans le rêve à la fois la nuit et le jour.
Absolument. En fait, le but du yoga du rêve, quelque part, c'est de nous faire réaliser que toutes nos expériences, même pendant la vie quotidienne, la vie diurne, mm-hmm. sont de la même nature que le rêve.
Donc, je suis dans ma vie, je vis ma vie quotidienne et je m'illusionne dans une situation, je suis un peu dans le rêve.
Alors ça, c'est un autre aspect, oui. C'est à chaque fois qu'on rentre dans des projections, par exemple, ou dans une interprétation limitée de la réalité, c'est un peu comme si on tombait dans un rêve. C'est là où, d'ailleurs, ces techniques-là rejoignent profondément la méditation et la pleine conscience. Parce que en pleine conscience et en méditation, on va pouvoir prendre conscience du fait que on est capté par des émotions, on est capté par une certaine vision limitée de la réalité. À ce moment-là, en méditation, on apprend quelque part à prendre une distance à l'intérieur avec tout ce qui sont nos émotions, nos pensées. On ne s'identifie plus à nos pensées.
On s'éveille davantage.
On s'éveille davantage et il faut bien dire que les gens qui pratiquent la méditation, la pleine conscience, ont beaucoup plus de facilité à se rendre compte qu'ils sont en train de rêver pendant qu'ils rêvent. Parce qu'ils sont habitués à questionner leur perception de la réalité, à la mettre en doute.
Fort intéressant.
À s'en différencier. Mmh. Pour se rendre compte qu'on rêve, pendant qu'on rêve, en continuant à approfondir un peu la technique dont je parlais tout de suite, c'est important aussi de noter ses rêves et de prendre note de tout ce qu'on appelle les indices oniriques, c'est-à-dire toutes les choses qui sont suffisamment bizarres pour que si on avait pris conscience de leur bizarrerie, on se serait rendu compte qu'on rêvait. Comme par exemple, on est en train de rêver et on voit quelqu'un qui est en train de marcher à 30 cm du sol, dans la rue, où on voit tout d'un coup un énorme vaisseau spatial qui nous lâche des marshmallows qui tombent sur toute la ville. Tout ce genre de choses devrait susciter un réflexe de lucidité, devrait susciter tout d'un coup un « haha, je suis en train de rêver ». Mais la plupart du temps, ça passe inaperçu, ce n'est qu'au réveil que nous disons « Ah, comment se fait-il que j'ai rêvé ça ? Ah, que c'est amusant !» Alors, il s'agit simplement de prendre conscience au réveil de ces indices oniriques et de se promettre que la prochaine fois, de prendre l'engagement ferme, que la prochaine fois, on fera en sorte d'utiliser ces indices oniriques pour prendre conscience qu'on rêve.
Donc, un entraînement pour développer une conscience plus large, plus précise, et en ce sens, vivre sa vie plus pleinement.
Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, ça va avec, comme je disais, ça peut aussi être énormément renforcé par une pratique méditative, et c'est un entraînement pour vivre plus consciemment.
Parfait. Bien, on a un autre appel, alors on... Ah, bon, désolé, je croyais que... Excusez-moi, je rêvais. Je suis de retour parmi vous.
Bon réveil.
Voilà.
Je peux peut-être continuer en expliquant qu'il y a une deuxième technique qui est bien connue pour faciliter l'entrée en rêve lucide. Elle est un petit peu différente. C'est une technique qui consiste à s'endormir consciemment.
OK.
Et ça, ça réclame aussi tout un certain entraînement. C'est avant enfin au moment où vous allez vous coucher, vous prenez une position confortable, une position dans laquelle vous pouvez vous endormir naturellement.
Sur le dos ?
une position dans laquelle vous endormez parfait. Naturellement. Okay. Personnellement, je ne dors pas sur le dos, ça m'empêcherait complètement de dormir. Donc, il faut surtout pas prendre une position dans laquelle on n'arriverait pas à dormir. Et la première chose, c'est que on commence par se motiver en disant « Je veux cette nuit rester conscient, bien que je dorme. Je veux rester conscient, bien que je dorme. Je veux rester conscient, bien que je dorme. » On se répète ça comme un mantra et on peut aller même plus profondément encore en disant « Je veux rester conscient dans mes rêves. Je veux rester conscient dans mes rêves. » Et donc, on se conditionne comme ça pendant quelques temps.
Okay.
Et puis, quand on sent le sommeil commencer à s'approcher, ben, la suggestion, par exemple, de la tradition tibétaine, c'est d'imaginer une fleur de lotus dans notre gorge.
Okay.
Et au cœur de cette fleur de lotus, une flamme. Et de laisser simplement l'attention, comme suggèrent les enseignants tibétains qui en parlent, de déposer l'attention sur cette flamme. De rester simplement donc, en conscience de cette flamme dans la gorge.
Sur la gorge.
En laissant venir le sommeil. Et si on pratique ça suffisamment souvent, il faut une pratique régulière et longtemps, il y a un moment où on se rendra compte qu'on ne peut plus bouger, qu'on a, on vit une forme de paralysie. Et c'est le seuil d'entrée dans le sommeil. C'est ce moment où le corps s'endort, mais l'esprit reste vigilant. Et à partir de là, on est capable de commencer à se réveiller en rêve.
Fascinant. Et je peux dire que moi-même, je l'ai expérimenté et ça marche.
Ah, très intéressant. Veux-tu nous parler un petit peu de ton expérience?
En fait, oui. Écoutez, ça remonte à loin. À l'époque, je lisais L'Obzin Grandpa.
Oui.
Et dans ça, il y avait justement une technique pour s'entraîner au voyage astral, au rêve lucide. Je vous parle de ça remonte à peut-être 30 ans. Mais effectivement, je dirais même à plusieurs reprises, j'ai expérimenté cet état où on a le sentiment de passer à l'extérieur du corps et d'être toujours lucide. C'est vraiment fascinant. Donc, est-ce que j'ai rêvé? This is the big question, comme disent les Chinois.
Au fond, ça nous ramène en effet, vous savez qu'il y a un paradoxe, tu parlais des Chinois et ça évoque un Chinois en particulier qui a complètement saisi le problème en une réflexion. Il dit « Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais un papillon.
Mm-hmm.
Mais qui suis-je vraiment? Suis-je Chuang Tzu, rêvant qu'il est un papillon? Ou suis-je le papillon qui rêve qu'il est Chuang Tzu? Et comment le savoir? »
Mm-hmm. Chose certaine, il est très Chuang Tzu. C'est vraiment fascinant. Et puis, on peut parler aussi, ça nous amène aussi à s'interroger sur les rêves prémonitoires, parce que y a des gens qui sont très intuitifs, qui, à l'état de veille, dans la vie quotidienne, vont avoir des impressions très fortes ou même des visions. Souvent, ça va annoncer la réalité qui est sur le point de se manifester ou de se produire.
Ça, absolument. En fait, c'est même une des grandes difficultés de l'interprétation des rêves. Carl Jung lui-même notait que probablement un tiers des éléments oniriques, des éléments qu'il y a dans les rêves, viennent du futur, d'une certaine façon. Si on veut rester juste dans le champ d'une certaine rationalité, on dira que l'inconscient a tellement d'éléments d'information, en plus du conscient, qu'il est capable de se faire une certaine idée de ce que pourrait être le futur. Mais là aussi, on est obligé d'admettre certains faits qui viennent bousculer la rationalité, parce qu'il y a des fois des accidents ou des choses absolument imprévisibles qui apparaissent dans les rêves. Et pour ma part, je préfère parler de rêves préparatoires que de rêves prémonitoires.
Okay.
Parce qu'il s'agit toujours de se demander pourquoi donc ai-je reçu ce rêve? À quoi cela sert-il? Et à quoi cela sert-il? Par exemple, quand on a fait un rêve préparatoire qui nous avertit d'un quelque chose d'absolument imprévisible, d'un accident absolument hors de contrôle, ça nous donne tout d'un coup l'intuition que la réalité est bien plus vaste, bien plus complexe qu'elle ne le semble en apparence. Donc ça participe encore une fois de notre éveil.
Tout à fait. Et si on est ouvert à ces dimensions-là, c'est des cadeaux, c'est des renseignements, c'est une vision plus approfondie de la vie.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, vraiment, je suppose qu'il y a parmi nos auditeurs des gens qui ont déjà vécu des rêves prémonitoires ou qui en vivront. Et vraiment, je veux insister sur le fait que la question qui importe, c'est mais pourquoi, à quoi cela peut-il me servir? Qu'est-ce que ça vient me suggérer? Qu'est-ce que veut le rêve en me communiquant cette information? Il est dit dans certains textes que Dieu ne montre le futur que quand on peut le changer,
ouais,
ou que quand on peut en tirer parti.
Mm-hmm.
Alors, c'est tout le problème. Si un rêve préparatoire vous advient, si un rêve prémonitoire vous advient, qu'est-ce que l'inconscient veut vous communiquer? Est-ce qu'il veut vous inviter à changer ce futur, à faire quelque chose pour éviter que ce futur ne se produise? Oui, mais bien souvent, on ne se rend compte que le rêve était prémonitoire ou préparatoire qu'après que l'événement se soit produit.
Ouais.
Ça nous cause un choc, ça vient perturber notre notion de la réalité. Alors c'est peut-être ça que le rêve voulait nous communiquer.
Mm-hmm.
C'est que la réalité, encore une fois, est plus mystérieuse, plus large, plus vaste que ce que notre raison peut en saisir, que ce qu'elle peut croire.
Notre raison qui est limitée.
Absolument.
Ouais. Intéressant. Ben regardez, on va écouter une chanson, en fait, une chanson de Céline Dion qui parle de ce phénomène du rêve.
Si bon qu'il était vrai.
Bien là, ce n'était qu'un rêve, mais un rêve bien réel. Alors, Jean, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission à nouveau. On va se retrouver à nouveau la semaine prochaine.
La semaine prochaine, on...